Alors, nous disions tout à l'heure que Clarisse Dreyfus, qui est donc l'animatrice, une des animatrices du centre de rencontre pour femmes réfugiées, le centre de rencontre Camille Martin, constatait que les femmes n'étaient pas là hier soir, les femmes du Kosovo n'étaient pas là hier soir. Alors, est-ce qu'on peut faire une quelconque conclusion à partir de cette observation ? Virginie, toi, tu vas souvent au centre de rencontre Camille Martin, tu fréquentes souvent ces femmes, tu les accompagnes à la pédiatrie, à la maternité, bref, tu es souvent avec elles. Gisèle, je ne sais pas si tu participes aussi à ce travail, mais est-ce que tu trouves une explication au fait que, de toute évidence, elles vont volontiers à Camille Martin, mais elles ne sont pas venues hier soir ? Pourquoi ?
Mais tout premièrement, je crois que ça va pas tellement dans mon avantage qu'elles n'étaient pas là. Ça veut dire que je n'ai pas tout à fait bien fait mon travail. Mais je crois qu'entre Camille Martin et entre hier soir, il y a une différence parce que le centre Camille Martin, elles sont entre femmes. Et hier soir, c'était un débat où il risquait d'avoir plus de gens, même des gens donc suisses. Et c'était un thème qui était assez, disons, l'émancipation de la femme, qui est assez tabou. Camille Martin, elles sont tout à fait là. On ne remue pas leur. On ne les remet pas en question. Elles sont là, elles font des travaux qui sont plus ou moins féminins, la couture et tout ça. Ce qui permet aussi de les habituer un peu à sortir et tout. Je ne veux pas nier le rôle de Camille Martin, mais il n'y a pas peut-être un si grand remise en question, si important qui était le cas hier soir, avec un débat, exposé débat.
Oui, c'est vrai, parce qu'il y a aussi le fait de la timidité aussi de ces femmes albanaises, en plus, qui nous ont beaucoup aidés autrement, c'est-à-dire qu'elles nous ont fait des bureks, elles nous ont fait des spécialités albanaises, et elles étaient tout le temps là pour nous soutenir, mais toujours derrière. Et jamais elles nous aient ou bien parlé devant les gens, ou bien servir les gens ouvertement. Donc elles voulaient bien nous aider, mais toujours en se cachant d'une certaine manière. Donc est-ce de la timidité, est-ce de l'inhibition, je ne sais pas comment expliquer.
Mais ou encore leur difficulté à s'adapter à la situation.
Et voilà, le fait d'avoir peur aussi de ne pas parler le français, de ne pas. Elles ont quand même la peur d'un espèce de contact plus profond avec la société suisse et d'un échange plus direct.
Oui, parce qu'on peut peut-être le rappeler, c'est quelque chose que nous avions eu le temps d'aborder la semaine passée, c'est que les femmes, quand elles arrivent ici, elles ont vraiment certains obstacles à franchir qui sont plus difficile que ceux des hommes. Pour tout le monde, c'est difficile d'immigrer. Pour tout le monde, c'est dur de quitter sa terre quand on est obligé parce que la situation est trop mauvaise. Mais la femme, en arrivant ici, a des obstacles supplémentaires. Et peut-être la femme kosovare, par rapport à son mode de vie en Kosovo, c'est encore plus difficile. Entre autres, l'histoire de l'isolement. On peut peut-être reprendre ça un tout petit peu ?
Oui, juste en quelques mots, le fait aussi que ces femmes ne sont pas formées, ne sont pas préparées à affronter les difficultés de notre société ici en Suisse. Elles ont une préparation tout à fait différente. Elles sont faites pour rester, elles ont été préparées pour rester dans la famille et être un peu protégées comme dans un cocon. Et là, elles ont toutes sortes de difficultés à affronter. Alors Virginie, tu peux citer, toi qui as connu ça, les difficultés qu'une femme albanaise a affrontées lorsqu'elle arrive en Suisse.
Je crois que l'arrivée dans un pays occidental, donc en Suisse, ne leur facilite absolument pas les choses. Le fait de ne pas être préparée pour une vie ici, et le fait que souvent tous les contacts par rapport à l'école, médecin, et tout ça se passe par l'homme, ne leur facilite pas du tout les choses. Au contraire, ça les met encore plus, disons, dans une situation de protection et de renfermement. Parce que les hommes, soi-disant, comme ils sont intégrés, ils parlent la langue, tout se passe par eux.
Oui, parce que toi, tu es là en Suisse depuis 7 ans et aujourd'hui, tu parles extrêmement bien le français. Est-ce que tu te souviens de tes toutes premières difficultés avec la langue française ? Comment, toi, as-tu appris le français, par exemple ?
Je crois que j'avais dit déjà dans une autre émission, je crois que c'est je vais peut-être vous raconter d'une anecdote. À l'époque où je ne parlais pas français, c'est que j'avais fait des cours, mais j'avais horriblement pas l'habitude de parler français. J'avais trop appris avec des cahiers, je faisais des devoirs chez moi. Et comme je me sentais très seule quand je suis arrivée, j'avais deux voisines qui discutaient tout le temps dans le palier. Alors moi, en tant que quelqu'un qui vient d'une communauté où on se visite beaucoup, on est tout le temps ensemble, surtout avec des voisines, je trouvais d'abord très bizarre qu'elles se visitaient jamais. Pour moi, c'était non compréhensif. Et par la suite, je me suis dit que ça pourrait me servir pour des exercices de français. Et souvent, je faisais j'imaginais que ces femmes, elles venaient chez moi boire un café en visite, et je m'imaginais qu'est-ce que je vais leur dire par rapport à mon pays, qu'est-ce qu'elles vont me poser des questions, et tout ça, ça me faisait des exercices et passer le temps en même temps, car je me sentais très seule et le temps était long pendant que mon mari travaillait.
Une autre femme racontait hier soir que, par exemple, elle regardait la télévision, puis que son mari lui écrivait un mot, deux mots, il rentrait, lui disait « qu'est-ce que t'as appris aujourd'hui ?» Et puis il lui écrivait un mot « bonjour, bonsoir », et c'est comme ça qu'elle a petit à petit appris la langue. C'est vrai que quand on vit seule chez soi, parce qu'on n'a pas le travail, l'homme il travaille au moins à l'extérieur, il a un contact avec l'extérieur, mais la femme elle est chez elle, les enfants vont à l'école, ce que ne fait pas la femme non plus. Donc il y a une effectivement grande difficulté à s'adapter. Mais toi, Virginie, tu accompagnes par exemple les femmes qui vont à Camille Martin. Entre autres, tu les accompagnes à la pédiatrie. Pourquoi doivent-elles aller en pédiatrie? Est-ce que c'est parce que leurs enfants sont malades en arrivant en Suisse, ou bien parce qu'il y a une série de contrôles à effectuer? Enfin, comment réagissent-elles par rapport au fait de devoir aller en pédiatrie avec leurs enfants?
Je fais une fois par semaine, je assure une matinée d'interprétation, donc de femmes qui viennent emmener leurs enfants, où elle vient pour des différentes difficultés, disons, où les enfants ils ont des problèmes d'enrhumée ou d'autres problèmes comme tous les enfants. Ce qui est important de dire, c'est qu'elles sont... C'est pas le fait seulement de trouver quelqu'un qui va leur traduire et qu'ils puissent directement dire au médecin ce qu'elles ressentent par rapport à la maladie de son enfant. Ce qui est plus important, je crois que pour eux, c'est plus important, elles sont accueillies par quelqu'un chez eux. Et souvent, j'ai une priorité par rapport à la polyclinique, donc par rapport aux autres, à la chirurgie ou les enfants hospitalisés. Donc souvent, quand elles doivent se rendre dans les autres services, je ne peux pas les accompagner. Mais ça ne les embête pas pour autant, parce que quand elles arrivent, elles savent que je suis à la polyclinique, elles me disent un bonjour, elles savent que elles sont accueillies par moi. Ça leur suffit pour leur donner courage d'aller ailleurs.
Mais qu'est-ce qu'elles viennent faire avec leurs enfants en pédiatrie alors? Est-ce que les enfants ont des problèmes particuliers lorsqu'ils vivent en Suisse ou lorsqu'ils arrivent en Suisse?
Je crois que le problème qui ressort tout le temps, c'est que ces enfants ils sont souvent anémiques. Alors, je crois qu'une information plus concrète par rapport à la nutrition des enfants serait très importante. Et c'est très difficile de leur expliquer aussi, parce que comme on sait que les Albanais ils ont une très grande natalité, donc on est une nation qui adore les enfants. Et c'est très difficile de leur expliquer que ce qu'elles font pour leurs enfants, c'est mal fait. C'est pas qu'elles veulent pas le faire, elles font tout pour nourrir ses enfants, mais souvent elles le font faux parce qu'elles sont... Donc elles n'ont pas d'instructions plus par rapport à la nutrition, qu'est-ce qu'il faut leur donner, qu'il y a du fer ou...
Mais est-ce que, par exemple, les gens souffrent de malnutrition en Kosovo? On dit qu'aujourd'hui, la Kosovo vit une situation dramatique au niveau économique. Est-ce que ça veut dire que les gens peuvent arriver à souffrir d'une certaine malnutrition, Gisèle?
Je dirais que les gens qui ont la chance d'un côté d'habiter dans les villages et qui ont quand même suffisamment de terres et de bêtes, donc moutons, chèvres ou vaches, ces gens-là ne souffrent pas de malnutrition. Mais toute cette classe de gens qui ont subi l'exode rural et qui sont venus s'ajouter autour des villes, à la ceinture des villes, n'ont plus de champs, n'ont plus de bêtes. Et ces gens-là sont et n'ont pas de travail la plupart du temps, à cause du chômage. Donc ces gens-là eux ont des chances de souffrir de la faim. Moi, j'ai entendu parler, disons, pour ces derniers mois, notamment avec tous les licenciements et le chômage qui ne suit pas, il n'y a pas d'indemnisation, qu'il y avait des gens, des familles nombreuses, avec des enfants qui ne mangeaient plus qu'une fois par jour et qui avaient peut-être de la viande une fois par mois. Mais dans la campagne, ça va un peu mieux. Par contre, le problème des enfants qui arrivent ici en Suisse, notamment des familles campagnardes, alors avant, ils étaient tout le temps dehors. Ils avaient quand même des légumes, des fruits qu'ils pouvaient même cueillir sur les arbres. C'était bon pour leur santé. Alors qu'ici, ils ont le même budget, si on veut, mais pour vivre en Suisse, ce qui est beaucoup trop peu. Et il n'y a plus les arbres, il n'y a plus rien, ils ne sortent plus, ils restent un peu enfermés dans les appartements. Ce n'est pas du tout bon pour la santé, déjà ils vivent en ville, ce n'est pas comme à la campagne. Et les problèmes de nutrition sont plus forts, parce qu'avec 500 francs suisses, on peut faire vivre une famille de 10 là-bas, en Kosovo. Mais ici, avec un petit salaire d'un manœuvre ou d'un ouvrier, quand on a 5-6 enfants, c'est impossible quasiment de les faire vivre décemment. Donc il y a des familles ici, par exemple, qui font une fois par jour une pita, c'est à base de pâtes, ça ne contient pas les vitamines suffisantes pour des enfants. Donc de là vient le problème de nutrition, aussi qui est très fort dans l'immigration.
Je crois qu'un des autres problèmes que vivent ces familles, et que tu as évoqué un tout petit peu Gisèle, c'est aussi le problème du logement. On en a très peu parlé la dernière fois, et ça je crois que ça contribue aussi à l'isolement et l'enfermement des femmes, c'est que ces gens vivent dans des conditions de logement extrêmement précaires.
Oui, puisque c'est des familles nombreuses. Alors, quand on sait qu'à Genève, le mètre carré est du luxe, je crois qu'en étant immigré avec des situations en général précaires, tout ça, maintenant, ça va de soi qu'ils habitent. Non, ça va de soi. Dire ça va de soi, ça veut dire que c'est accepter cette situation. Mais je veux dire que comme ils sont en général des situations précaires, des emplois qui sont des manœuvres, donc qui sont des salaires bas, des familles nombreuses, tout ça, ça ressort qu'ils habitent dans des tout petits appartements.
Est-ce que les femmes, au bout d'un temps qu'elles sont là, est-ce qu'elles cherchent du travail? Dans le sens que, par rapport à la difficulté que tu viens d'énoncer, Gisèle, de devoir nourrir une famille souvent avec de nombreux enfants et un salaire très modeste, est-ce que pour contribuer à soutenir la famille, les femmes, à un moment donné, sont obligées de travailler, qu'elles soient clandestines ou avec un permis de travail, dans la mesure où leurs maris ont reçu enfin le permis B? Et quel type de travail elles trouvent, puisque beaucoup de ces femmes viennent de la campagne, on le disait la dernière fois, ou tu le redisais tout à l'heure, et donc sont souvent peu scolarisées, n'ont pas de formation professionnelle. Donc, quel choix elles ont comme type de profession si elles doivent ou si elles veulent travailler?
Mais je crois que ne pas avoir une préparation scolaire, c'est pas seulement ça. Il y a beaucoup de gens qui sont universitaires et puis qui travaillent ici en tant que manœuvre. Mais elle travaille un peu dans les endroits, disons, elle travaille comme nettoyeuse, comme dans des emplois qu'en général travaillent tous les immigrés.
Pourquoi tu dis on peut avoir une formation universitaire et puis se trouver manœuvre?
Ici, parce qu'on a un diplôme de là-bas, c'est pas très facile de la faire reconnaître. Donc, en attendant, il faut vivre.
Est-ce que toi, par exemple, tu as souffert de ça?
Non, pas vraiment, parce que je travaille avec les personnes âgées, et j'adore les personnes âgées. Et souvent, les gens... Je commençais un peu par obligation, parce que j'étais clandestine au début. Mais moi, j'aime bien mon travail, donc ça m'a jamais dérangé de travailler en tant qu'aide hospitalière, même si j'ai une formation de journaliste, par exemple. Mais... Je parle pour quelqu'un qui a un bagage universitaire et se retrouver avec à faire des murs. Je pense que ça ne doit pas être si facile.
Là, nous allons écouter une nouvelle chanson que nous a choisie Gisèle.
Say yo evejor
Voilà, alors ça c'était une chanson de Shkurte Feiza, qui est la plus grande chanteuse de Kosovo, en tout cas la plus populaire. Et puis elle reprend une poésie du début du siècle, écrite par Fan Noli, qui était un démocrate d'Albanie. Et pour dire que, ce qui est intéressant dans cette chanson, c'est qu'on identifie le pays à une femme, toujours, et notamment à une veuve. Par exemple.
C'est pour ça qu'on dit la Kosovo.
Oui. Alors, cette identification du pays à une femme est très importante parce qu'on lui attribue tous les adjectifs qui vont aux femmes, veuve, etc. Tout à fait.
Belle,
par exemple, timide, enfin, tous les attributs qu'on peut attribuer à une femme, c'est assez intéressant.
Alors revenons peut-être à notre question à propos de la médecine. Tu disais, Virginie, que tu accompagnais les femmes kosovares qui fréquentent le centre de rencontre Camille Martin, entre autres en pédiatrie et aussi à la maternité. J'imagine que ces femmes ne doivent pas être très habituées à la confrontation avec les médecins. Et que d'autant plus lorsqu'elles ne peuvent pas exprimer facilement ce qu'elles ressentent, soit la douleur de leurs enfants qu'elles peuvent percevoir, soit leur propre problème à elles. Comment ça se passe, ça ? Est-ce que toi, tu t'es souvent amenée à essayer de suppléer aux explications que donne pas le médecin pour qu'elles comprennent mieux ce qui se passe, comprennent ce qu'a leur enfant, comprennent ce qu'elles ont ?
Oui, souvent je dois leur expliquer un peu à leur façon, mais ça ne va pas dans mon avantage encore de nouveau. Je crois que c'est important de dire pourquoi on a eu envie que ces femmes soient plus accompagnées régulièrement. Parce que avant tout se passait, donc les hommes les accompagnaient et souvent ils étaient gênés. Par exemple, quand il y avait un contrôle chez le gynécologue, être accompagné par leur mari. Et ce qui se passe, c'est que le mari, malgré qu'il apprend la langue, il apprend des termes qu'on peut apprendre, disons, dans la langue quotidienne. Donc, on sait qu'ici, un médecin donne une explication très instruite et tout. Car des fois, je demandais une lexique des maladies et tout. Parce que là-bas, souvent, les maladies sont connues avec des langues, des termes populaires. Et il a fallu un moment pour que je fasse des comparaisons pour trouver de quoi il s'agissait, de quelle maladie. Donc pour illustrer un peu ça, je peux peut-être vous raconter une expérience que j'ai eue avec une femme qu'on avait beaucoup de la peine à faire un traitement préventif à son fils qui était en danger, en risque de contamination par la tuberculose car sa sœur, elle était malade. Et la mère, elle n'avait jamais compris l'importance de la maladie de sa fille et le risque de son fils. Et donc, parce que toujours, il y avait les hommes qui lui expliquaient ça très superficiellement. Mais ce n'est pas par une mauvaise volonté. Je crois que même l'homme n'avait pas compris. Le mari n'avait pas compris l'importance. Alors quand je suis allée à la maison chez cette femme, qu'on me disait qu'elle ne sait même pas regarder la montre, elle est complètement analphabète, c'était pas du tout vrai. C'est qu'elle était elle prenait ça plutôt à la légère, car on ne lui a jamais expliqué vraiment l'importance de la maladie. Par la suite, elle a commencé à venir régulièrement et traiter son enfant. Donc c'était quand même quelque chose qu'elle a accompli par la suite.
Et la méfiance par rapport aux médecins, est-ce qu'elle se méfie des médecins ? Dans le sens, je ne sais pas comment est organisée la santé en Kosovo, mais est-ce qu'elles se disent qu'elles ne savent pas comment ça fonctionne, donc se méfient ?
Je crois qu'ici en Suisse, on fait beaucoup de la médecine préventive, ce qui n'est pas le cas là-bas. On attend plutôt dernier moment. En tant que patient et médecin aussi, parce qu'il y a trop des patients, ils ne sont pas le même nombre qu'ici. Donc la médecine, elle n'est pas si évoluée. Alors ils sont beaucoup, ils ne comprennent pas pourquoi on doit être en traitement 3 mois pour pas tomber malade d'une maladie. Ils disent, puisqu'il n'est pas malade, ça sert à quoi de le traiter 3 mois, de prendre les médicaments. Ils sont surtout méfiants par rapport aux médicaments et les prises de sang. Les prises de sang, alors ça passe mal. Ce qui se passe, c'est que souvent, pour des cas d'anémie, on fait des prises de sang pour voir donc si l'anémie elle est améliorée. Alors ils disent, mais puisque ces enfants, ils sont déjà anémiques, ils n'ont pas de sang, alors on leur prend plus autant, ça sert à quoi ? Ils ont encore moins de sang et tout. Donc je crois que tout ça, c'est le manque d'instruction. L'anémie, ils le considèrent comme quelque chose de manque de sang. Ça signifie ça pour eux. Donc souvent, il faut des longues explications pour leur expliquer ce que les médecins font ici. Et puis des fois, ils sont même l'impression qu'ici, on cherche trop la petite bête. pour le moindre rhume, on faut absolument traiter et tout, et que là-bas, on passe un peu ça, comme ça, debout, sans trop se préoccuper.
Mais cela vient aussi du fait que dans le pays, en Kosovo, il y a énormément de problèmes, justement. Bon, il y a actuellement une grande méfiance par rapport aux médecins, parce que la plupart des médecins albanais ont été renvoyés. Donc il n'y a pratiquement plus que des médecins serbes pour assurer la maintenance. Donc il y a une méfiance par rapport aux médicaments que peuvent donner ces médecins. On ne sait pas s'ils veulent empoisonner. Ils ont peur toujours qu'on empoisonne la population en Kosovo et tout. Et ça, c'est très profond. Ça reste au fond d'eux. Et quand ils arrivent ici, ils savent très bien que notre médecine est avancée et tout. Mais ils ont toujours cette idée derrière la tête de méfiance par rapport aux sirops, aux médicaments, à toutes ces choses qu'on donne.
Donc l'empoisonnement dont tu parles, il est arrivé.
Oui, justement. Et comme on n'a pas pu trouver exactement d'où ça venait et tout, la peur est complète. On se dit, est-ce qu'on va demain nous empoisonner à nouveau par l'eau? Il y a différents moyens de faire passer des poisons. Donc ça, c'est tellement profond en eux et c'est une répression qu'ils vivent depuis tellement d'années qu'ils n'arrivent pas, une fois là, à se décharger de tout ce passé. C'est pour ça qu'ils ont une méfiance. Et au niveau de la prévention, par exemple, là-bas, en Yougoslavie, il n'y a rien qui est fait pour la population albanaise au niveau de la prévention. Ici, depuis tout petit, les enfants, même on leur dit de se brosser les dents, des choses très simples, qui là-bas ne passent pas pratiquement. Donc il y a tout un travail qu'on devrait faire ici en Suisse. Il devrait y avoir des équipes de la Croix-Rouge qui prennent ça sérieusement en main, les familles d'émigration justement, par exemple, la Kosovo, il y a d'autres pays, etc. Et qui forment ces mères, qui forment aussi les enfants et les pères. Voilà.
Est-ce que... Oui, Virginie ?
J'aimerais juste peut-être dire, par rapport à la méfiance de médecins, c'est qu'il n'y a pas eu seulement l'empoisonnement. Il y a eu souvent des femmes qui étaient stérilisées contre leur volonté, car depuis qu'il y a eu des problèmes, on s'est toujours attaqué à notre natalité, qui est... on est un peuple qui a un moyen de 24 ans, mais cette natalité vient comme partout, donc des problèmes économiques et de manque d'instruction de la femme, donc aussi de contraception, manque de contraception et tout. Alors il y a eu souvent des cas des femmes qui étaient stérilisées contre leur volonté.
Par exemple lors de leur accouchement ou bien comment ça pouvait se faire?
Oui,
plus les femmes ignorent ce qui se passe, donc elles ne se rendent pas compte.
Elles ne se rendent pas compte, alors elles ont souvent été, quand il y a eu des accouchements ou après le... avortement, par exemple, aussi.
Les femmes ont le droit à l'avortement en Yougoslavie ?
Oui.
Et en Kosovo aussi ?
Oui, oui, tout à fait.
Ils se pratiquent d'ailleurs assez souvent. J'ai été étonnée.
Ils remplacent la contraception ?
Oui, et ça c'est vraiment assez terrible. Parce qu'il n'est pas toujours bien fait. Et puis des fois, il y a eu même des femmes qui ont eu plusieurs avortements consécutifs au lieu d'avoir une contraception normale. Et puis le résultat, c'est que des fois après, elles ont de la peine à avoir un enfant normalement.
Est-ce qu'à propos de leur visite chez le gynécologue chez nous, Virginie, est-ce que ça correspond souvent en même temps à leur première visite chez le gynécologue, vous me disiez tout à l'heure hors antenne? C'est pas fréquent, les femmes ne font pas régulièrement des contrôles chez le gynécologue en Kosovo et en particulier à la campagne, j'imagine.
Non, elles font pas souvent des contrôles chez le gynéco, et même si elles le font, les médecins de là-bas, ils savent bien, ils connaissent bien la mentalité de ces femmes, donc ils sont beaucoup plus attentifs à ce problème. Bon, par ce fait, je ne veux pas s'en prendre aux médecins ici qui sont aussi très attentifs, mais le fait d'être accompagnée, de ne pas être seule dans un moment si important pour elle, les soulage beaucoup.
Grepe nesse de more, ach, che raggi, e pa.
mi pavese de more, ah, che Geraldine, Geraldine, ot cam velaie de more, ah, che Geraldine. Ama papa raje dhe more, ah që gjeranë Ja, dir dan de more, ach, je, je.